Marie Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir dans le 118e numéro de Marie Nostrum, le seul magazine radiophonique francophone qui se propose de vous faire mieux connaître la Méditerranée.
À travers le temps et l'espace, et grâce aux chercheurs qui sont mes invités.
Alors aujourd'hui, on va évoquer un anarchiste italien qui s'appelle Pio Turone, en exil en France entre les deux guerres, avec comme sous-titre « De l'engagement individuel à la mobilisation collective », parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, ce qui va nous permettre de mieux connaître l'action du mouvement anarchiste au plus près de ce qui l'anime. C'est-à-dire qu'on fait bien la jonction entre les deux avec notre invité. Alors notre invité, c'est Françoise Fontanelli. Bonjour Françoise.
Bonjour Aimant, merci pour l'invitation.
Alors, vous êtes docteur en histoire contemporaine. Votre spécialité porte bien sûr sur le mouvement anarchiste, sur lequel s'inscrivent une dizaine de publications et de contributions scientifiques. Vous faites partie du CIRA, qui est donc le Centre international de recherche sur l'anarchisme. Et vous avez collaboré, bien sûr, au Métron version libertaire, plus précisément. Et vous êtes également membre de cette magnifique association Promemo, avec qui Marie Nostrum est partenaire depuis plusieurs années. Nous avons effectivement travaillé assez souvent avec Promemo et ses membres. Alors donc, on va attaquer cette question donc de ce personnage, Pio Turone, n'est pas très connu finalement, hein, mais qui est engagé quand même dans l'histoire de l'entre-deux-guerres et même au-delà, hein, y compris pendant la guerre. Et donc, on va questionner Françoise avec, donc, comme première question, comme je le fais depuis quelque temps déjà, le problème donc du sujet, le problème des sources. On va essayer donc d'attaquer avec ça ce sujet donc sur un personnage. Donc c'est du domaine de la biographie, avec à côté donc le mouvement. Comment ça vous est venu à l'esprit ce sujet?
C'est un peu comme le prolongement de mon Master 2. Donc, dans le cadre de mon Master 2, j'avais travaillé sur les comités d'assistance aux victimes politiques, qui en fait sont des comités qui ont permis le transfert des militants italiens de leur pays d'origine au pays d'accueil. Donc ces comités d'assistance aux victimes politiques sont les véritables noyaux qui agrègent les exilés sur Marseille notamment, mais il y en a eu dans quelques villes et pays d'Europe. Cette entrée plutôt collective dans le mouvement, alors j'avais trouvé à l'époque que l'entrée par le biais de la solidarité était une entrée assez intéressante, mais c'était plutôt un point de vue collectif. Au cours de ma recherche, évidemment, la personnalité de Pio Turone emprunte un peu les voies classiques de l'exilé antifasciste. Il quitte son pays en 22-23. Il arrive en Belgique, il fait un petit périple avant d'arriver sur Marseille. Il combat en Espagne, il connaît les camps d'internement, il est emprisonné, il est clandestin. Donc des trajectoires somme toute classiques pour des militants de l'antifascisme, toute famille politique confondue. Mais sa personnalité m'a attirée. Donc à la fin de mon Master 2, je m'étais dit que peut-être resserrer la focale sur un militant pour explorer le mouvement anarchiste italien en exil en France, alors que c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à Marseille, mais c'est un militant qui a beaucoup voyagé, je trouvais ça intéressant. Alors évidemment, l'approche biographique est un prétexte, évidemment, puisque, comme vous vous en rendrez compte, je ne balaye pas l'intégralité de l'existence de Pio Turone. C'est aussi un petit clin d'œil à Jean Métron, puisque je rédige des biographies dans le cadre du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, surtout la partie libertaire. Et c'est vrai que Jean Métron s'est beaucoup intéressé aux obscurs, s'est beaucoup intéressé aux militants de la base, et Pio Turone est un militant de la base. Alors le paradoxe, c'est qu'il est quand même très connu dans un petit cercle qui est celui de l'anarchie, du mouvement anarchiste de l'après-guerre, parce que c'est quelqu'un qui a vécu en France, c'est quelqu'un qui a combattu en Espagne. Donc il y a une espèce de mythe qui s'est construit autour de Pio Turone au sein du mouvement italien. Et par ailleurs, ce n'est pas du tout un militant connu, c'est un militant anonyme, pas très grand
public. Discret.
Très discret, pas très grand public. Ce qui est important, c'était de déconstruire un peu le mythe qui s'était formé autour du personnage. Parce que, à la fois, de larges pans de son histoire en exil étaient totalement inconnus des militants, parce que c'est quelque chose de propre aux militants, pas qu'anarchistes. La discrétion et un peu cette culture du secret. Donc, démonter des... cette espèce de culture auréolée, d'agiographie qui est très présente dans ces petits mouvements.
Ces militants, ils ont une certaine modestie de toute façon, naturellement, souvent, sur leur action, sur ce qu'ils ont fait dans leur vie.
Alors c'est curieux parce que la première question que je me posais, c'est est-il vraiment raisonnable d'écrire la biographie de quelqu'un qui déclare dans les années 80 « Je suis persuadée que les hommes sans histoire sont les hommes les plus heureux. » C'est ce qu'il répondait. C'est ce qu'il répondait à Robert D'Attilio, qui est un chercheur italo-américain, qui avait entrepris des recherches sur Pio Turoni et sur le mouvement anarchiste en exil, et qui avait évoqué avec Pio Turoni l'idée d'écrire sa biographie. Il n'aimait pas se raconter. Je pense que c'était quelqu'un d'assez humble. Et surtout... beaucoup d'actions menées à Marseille et en Espagne et à la limite de la légalité. Alors, la biographie, on le sait tous, ça a été longtemps un genre impur, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne l'ai pas su au début, mais la biographie est devenue un prétexte, puisqu'on ne peut pas à proprement parler de biographie, puisque je ne balaye pas toute l'existence de Pio Turoni. Je m'arrête en 1945, lorsqu'il rentre en Italie. Alors, comme prétexte, parce que étudier la trajectoire de militants en essayant de combler toutes les zones d'ombre et en essayant de construire une chronologie pour voir comment il évolue dans le mouvement, parce qu'il part de chez lui très jeune, il a 17 ans. Ça m'a permis aussi de découvrir les individus qui constituaient son groupe, mais aussi les individus, les rencontres qui ont permis de créer, alors je le mets entre guillemets réseau, qui ont permis de créer un réseau de relations très important. Et qui seront très importants aussi par la suite lorsqu'il rentre en Italie.
Oui, le secret faisait partie quand même aussi de sa vie.
Ah, le secret faisait totalement partie de sa vie, puisque... Alors, il n'est pas clandestin, puisqu'il a toujours, navigué en France et en Europe avec des papiers. Il part avec un passeport en règle, il fait régulièrement renouveler sa carte d'identité, mais c'est plutôt son action qui est clandestine. Et je pense que la partie de sa vie qui est officielle, qui est au grand jour, c'est-à-dire sa vie professionnelle, lui a permis de mener cette vie clandestine, cette vie d'action clandestine.
Cette remarque nous permet d'aller un peu plus loin dans cette présentation de votre sujet. Et ce que j'aime faire, je le disais déjà tout à l'heure, c'est qu'on parle un peu des sources. Parce que justement, sur un personnage comme ça, discret, qui vit en partie dans la clandestinité, trouver des sources, ça devient compliqué. Alors je sais que... Vous êtes beaucoup promené pour ces sources et vous avez puisé auprès de sources assez diverses. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces sources ?
Alors ma crainte de départ, c'était évidemment que sur des sujets comme celui-ci et sur des personnages très peu connus, c'est quasiment un anonyme pour le grand public, je serais face à des sources très réduites, très restreintes.
On va faire une petite pause musicale.
Des sources
très réduites,
très restreintes. C'est pas du tout le cas, puisqu'en réalité, je me suis retrouvée, j'ai dû faire face à une somme de sources assez considérable. Alors, pas des sources classiques dans le sens où on les entend, mais plutôt des sources aux origines variées. Alors, géographiquement parlant, très étendues, puisque Pio Turoni a quand même traversé l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'Espagne, le Mexique, l'Afrique du Nord, la France, Marseille, si on considère que c'est un pays à part entière, et quelques autres pays d'Amérique latine. Donc, il n'a pas laissé de source, en tout cas, je n'ai pas trouvé de source dans tous ces pays, mais je me suis efforcée de marcher dans ses traces. Alors, j'ai eu besoin de constituer une chronologie pour travailler, même si ce n'était pas l'objet de mon travail. J'ai ressenti le besoin de construire une chronologie pour analyser son évolution et dans le mouvement et en Europe. Alors, il y a ce qu'on appelle les sources à charge, plus institutionnelles. Donc, on va retrouver notamment les sources de la police, les relations des agents collaborateurs de l'OVRA, les relations des espions qui travaillent à la solde des consulats, parce qu'il faut savoir quand même que l'OVRA utilisait largement les émissaires consulaires pour glaner des renseignements sur la situation des partis politiques italiens en exil, et surtout pour glaner des renseignements sur l'action des différents militants en exil. Donc les très grosses agences consulaires que sont Paris, Marseille, ont organisé leur renseignement et ont été de grosses productrices d'archives, de rapports, puisque bon. Alors, il y a le Casellario Politico Centrale, qui est l'équivalent du sommier politique dans lequel sont répertoriés tous les militants qui ont quitté l'Italie pour des motifs politiques. Mais tous les militants, puisque quitter l'Italie, c'était déjà faire preuve d'opposition. Donc, on n'y trouve pas toujours de purs militants. C'est quelque chose qui représente quelque chose comme 55 km d'archives linéaires.
Ça fait une belle promenade. Hein.
Ça fait une belle promenade. Ensuite, il y a toutes les relations d'observateurs qui sont classées, d'agents collaborateurs qui sont classés dans différentes rubriques. Donc, il y a par exemple une rubrique, la AK2 et la H2, qui recensent toutes les tentatives d'attentats contre le Duce en Italie et hors de l'Italie. La plupart des pistes sont fausses et ne débouchent sur rien, mais ça représente aussi un certain nombre de kilomètres. Il y a également des séries qui concernent la situation, l'implantation des formations politiques dans les pays d'accueil. Il y a une très très grosse série sur Marseille, sur les anarchistes et sur les giélistes, les militants de justice et liberté qui sont très proches du mouvement anarchiste, surtout à Marseille. Donc toutes ces sources à charge ne peuvent pas être utilisées telles quelles, puisqu'elles sont quand même très sujettes à caution.
Et oui.
Alors essentiellement parce que les fonctionnaires de police n'ont pas toujours le discernement pour découvrir ce qui se trame, et puis surtout parce qu'elles sont alimentées, ces relations sont alimentées par des espions qui sont payés au renseignement. Donc ce sont des informations qui sont sujettes à caution, qui sont sujettes à extrapolation, et qu'évidemment, le renseignement étant payé, plus il est étoffé, plus il est croustillant, plus il est rémunéré. Donc il y a toute cette dimension qu'il faut évacuer. Pour l'évacuer, il faut parvenir à croiser ses sources avec d'autres sources. Donc Pio Turoni est quelqu'un qui écrit beaucoup, alors qui écrit beaucoup surtout après-guerre, qui, je pense, a beaucoup écrit avant-guerre. Le problème, c'est qu'en fait, la correspondance s'est perdue. Toute la correspondance de l'entre-deux-guerres, enfin, les seules correspondances qu'on ait retrouvées, c'est la correspondance qui est saisie et copiée par les commissions de contrôle postal. Donc tout le courrier des militants, le courrier de la famille des militants. C'est ainsi que dans le Casellario Politico Centrale et dans le dossier de Turoni, on trouve la correspondance qu'il échange avec sa sœur, dans une moindre mesure un de ses frères. Donc elle est systématiquement épluchée et copiée. Et puis après, il y a toute la correspondance qu'il entretient avec le reste des militants. Source de deuxième ordre, la presse, parce que c'est quelque chose d'extrêmement développé. Bon, il faut quand même savoir que sur Marseille, durant l'entre-deux-guerres, la presse libertaire de langue italienne représente 15 périodiques. Ce qui est quand
c'est
même
énorme.
C'est énorme compte tenu de la petite formation, mais c'est énorme. Alors il y a beaucoup de numéros uniques, mais c'est aussi une façon de communiquer entre les différents groupes disséminés en Europe, parfois en Amérique latine et aux États-Unis, puisqu'un des plus gros groupes et surtout un des organes à la longévité la plus importante, c'est la Donata dei Refrattari. Qui est un organe qui a commencé à apparaître en 1920 et qui a quand même mis la clé sous la porte dans les années 70. Donc ces organes, ils ont la même fonction que les comités d'assistance aux victimes politiques, c'est qu'en fait, à travers leur étude, on arrive à percevoir la circulation des hommes, la circulation des idées évidemment, et la circulation de l'argent. Parce qu'ils diffusent de l'information. Il maintient la relation entre les militants restés en Italie, entre les militants exilés en Europe ou aux États-Unis. Mais surtout, c'est une source de premier plan parce que toutes les publications libertaires de langue italienne, mais toutes les publications libertaires d'une manière générale, font toujours état des cotisations et des financements et pour les différentes collectes qui alimentent ces associations. Donc, analyser les listes de souscriptions, ça permet, c'est un travail de fourmi, analyser les listes de souscriptions, ça permet d'identifier les militants, d'identifier le groupe auquel ils appartiennent. Souvent, ils publient sous pseudonyme, mais au bout d'un moment, on arrive à identifier les pseudonymes. Et surtout, ça permet de les repérer géographiquement, parce que c'est une population extrêmement labile. Quoi qu'on en dise, c'est pas toujours le militantisme qui guide les pérégrinations des militants. C'est avant tout, comme pour les autres migrants, c'est la recherche d'un emploi. Donc ces listes de souscription m'ont permis, par exemple, de retrouver Pio Turoni à Bruxelles en 1924. Parce qu'il y a toute une période de son existence entre le moment où il quitte Cesena, dans le nord de l'Italie, en Émilie-Romagne, et le moment où il arrive à Paris. Il se passe 3-4 ans durant lesquels j'ai formulé des hypothèses de trajectoire, mais j'arrive pas à clarifier sa trajectoire. Alors je suppose qu'il s'est rendu en Suisse, puis en Belgique, parce qu'un de ses frères, lui aussi fiché au Casellario Politico Centrale, mais dans une autre famille politique, celle des Républicains, avait obtenu un contrat de travail en Belgique chez un entrepreneur maçon, et je suppose qu'il a rejoint. Mais depuis la Belgique, je ne suis pas parvenue à retracer sa trajectoire. On le retrouve dans les années 26-27 à Paris. Alors à Paris, où bon nombre de militants anarchistes italiens sont réfugiés. Mais entre les deux, il y a quelques zones d'ombre comme ça que la documentation et le croisement de la documentation n'a pas permis d'éclaircir.
C'est la preuve quand même qu'il est assez astucieux dans ses déplacements.
Tous les groupes sont infiltrés. Le Parti communiste, le Parti socialiste, les maximalistes, les gilistes, les anarchistes, tous les groupes sont infiltrés par des agents collaborateurs. Sont infiltrés ou possèdent des militants qui, contre rémunération, donnent des informations. C'est d'une extrême précision. Les militants qui sont particulièrement surveillés, et c'est le cas de Pio Turoni, sont suivis à la trace. Alors curieusement, Pio Turoni passe sous les radars de la police française jusqu'en 1939. Avant 1939, aucune mention de Pio Turoni n'est faite dans les rapports de police français, à l'exception d'une plainte déposée par un client chez qui il avait travaillé à Garennes-sur-Eure. Il lui aurait dérobé un marteau ou un tournevis, c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est la seule chose qu'on ait retrouvée. Donc jusqu'en 1939, au moment où il est arrêté en novembre 1939, il passe sous les radars. Et il est quand même fiché extrêmement tardivement, puisque l'ouverture de son dossier au Casellario remonte à 1933.
Et ce dossier, il apporte des informations intéressantes.
Alors, dans le cas de Pio Turoni, ce sont deux dossiers. Parce que la police, très rapidement, très tôt, a eu conscience que parmi les informateurs et parmi les fonctionnaires qui bossaient au ministère de l'Intérieur, il pouvait y avoir des fuites. Donc il existe pour certains militants un peu importants un sous-dossier qui est classé dans une autre catégorie. Donc Pio Turoni a à la fois un dossier au Casellario Politico Centrale et un sous-dossier dans lequel on retrouve souvent beaucoup d'informations similaires, mais où on retrouve d'autres informations. C'est un Casellario, un dossier du Casellario, ça peut aller jusqu'à 100-150 pages. Donc c'est extrêmement détaillé, il y a des chronologies de déplacement, compte rendu de réunion, beaucoup de fantaisie également.
Oui, ça fait déjà pas mal de choses.
Énormément, et puis par ailleurs, le beau-père de Pio Turoni, mais Pio Turoni ne le découvrira que très tard, dans les années 80, est un agent collaborateur de l'OVRA. Alors, visiblement, c'est un agent collaborateur de l'OVRA de longue date, puisqu'il porte le numéro 6. Il est parmi les premiers agents à être engagés par l'OVRA. Et surtout, c'est un militant. Donc, c'est très difficile d'infiltrer un groupuscule, y compris dans les milieux de l'exil. C'est très difficile. Donc, c'est beaucoup plus facile de retourner un militant contre les siens. Alors, pour des raisons qui lui sont propres, peut-être des raisons financières.
Pour les retourner, on peut toujours trouver un biais pour pouvoir les convaincre.
Tout à fait. Alors, ce qui devient intéressant, c'est que son beau-père, Bernardo Cremonini, il le rencontre dans les années 30, très vraisemblablement, enfin, en tout cas après 1926, lorsqu'il vient s'installer à Paris. Et évidemment, il travaille toujours dans le milieu du bâtiment, puisque un grand nombre de libertaires italiennes travaillent dans le bâtiment. Alors non pas parce que le bâtiment... alors oui, le bâtiment est majoritaire dans ses formations, mais c'est surtout les emplois peu qualifiés.
Peut-être plus facile à trouver.
Et puis plus facile à trouver.
En faisant le tour des chantiers, on trouve toujours quelque chose.
Donc on pense qu'il rencontre Bernardo Cremonini. Alors soit c'est Bernardo Cremonini qui lui a présenté sa fille, soit c'est par le biais de sa rencontre. L'endogamie politique est très importante aussi dans ses formations. Il y a peu de risques pour qu'on se risque à fréquenter des gens hors du sérail, parce que ça limite aussi, ça limite aussi les fuites. Ça, bon.
Et oui, c'est ça. C'est une question de gestion des informations secrètes, on va dire. On va faire une petite pause musicale. Je vais proposer une chanson. Donc, je suis en train de chercher la datation. Je crois que c'est la fin du 19e, qui s'appelle « Bevi, bevi, compagno ». Qui illustre les luttes sociales.
Bevi, bevi, compagno, se no t'ammazzerò. Non m'ammazza, compagno, da adesso beverò. Mentre il compagno beve, la canteremo, la canteremo. Mentre il compagno beve, la canteremo, la rillerà. La, 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 la canzone che ammazza li preti. La, 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 mazza monache preti e fai la. Nasce l'anarchia, un bel pranzo sa da fa, tutto vitella e manzo, seduimo da magna,
seduimo da magna,
e un frittare di monache, preti e frati spezzati, l'ossa desti maiali.
Alors, continuons donc encore quelques éléments à éclaircir sur les sources. Il y a tellement de choses que ça nécessite quand même des explications. Alors, Françoise.
Alors, beaucoup de sources, oui, curieusement. Contre toute attente, beaucoup de sources. Et surtout, parfois, des sources assez inhabituelles. Pio Turoni. C'est un personnage très romanesque et à deux reprises dans mes recherches, je suis tombée sur des romans dans lesquels il était l'un des personnages. Donc le premier, alors ce qui est très commode parce qu'à la fois, même si c'est romancé, à la fois c'est assez objectif parce que j'ai pu croiser les éléments de ces deux romans avec des sources plus académiques. Plus administrative. Et puis aussi, ça donne une idée aussi du personnage qui pouvait être dans la vie de tous les jours. Donc la première fois qu'il apparaît dans un roman, alors c'est pas tout à fait un roman, c'est La Chevauchée anonyme de Louis Mercier-Véga, qui est un militant internationaliste d'origine belge, qu'il a côtoyé à Marseille et qu'il a côtoyé en Espagne aussi, et qui lui consacre un chapitre dans lequel il est Mario. Mario, la personne qui vit au 44 quai du port, donc il y a des éléments de fiction qui sont mêlés à des éléments de la réalité. Mario qui vit au 44 quai du port et qui apprend toutes les adresses par cœur, apprend toutes les informations par cœur et déchire systématiquement toute documentation, ce qui est très dommageable pour le chercheur, et qui est à la tête de ce comité d'assistance pour les victimes politiques et, comme le dirait Mercier-Véga, qui donne à bouffer à 120 zèbres. Donc, c'est lui qui gère toute la logistique, aidé d'autres militants, des évadés des camps d'internement administratif, qui les logent et surtout qui organisent les évasions depuis Perpignan avec tout un réseau de militants qui lui prêtent concours. Il y a ce personnage de Mario. Et puis, lorsque Touron engage sa traversée vers le Mexique, qui est une longue odyssée semi-clandestine, je n'avais absolument pas de source sur les conditions de cette traversée. Il a passé 7-8 mois en Afrique du Nord en attendant le départ du bateau en 1941. Et toutes ces informations étaient... c'était un pan de sa trajectoire qui nous était inconnu. Et contre toute attente, dans le même bateau que lui, le Serpa Pinto, qui fait quelques escales, notamment aux Bahamas et à New York, mais qui finalement arrive à Veracruz en décembre 1941, il y a un socialiste, Giuseppe Garetto, qui, arrivé au Mexique, entreprend de raconter cette traversée. Et qui, encore une fois, alors cette fois-ci, il change de pseudonyme, il s'appelle Nori, et le présente comme étant la personne qui, sur le bateau, s'inquiète du bon déroulement des choses, vient en aide aux plus démunis, organise les secours, parce que tout le monde voyage en soute, dans des conditions effroyables, un mois de traversée, avec des conditions d'hygiène et un ravitaillement plus que précaire. Et donc là, encore une fois, un pan de l'histoire de Touron que je ne connais pas, ou pour lesquels je n'ai pas beaucoup de sources, est éclairé par un nous. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à relativiser. C'est un roman. Alors, il se trouve que ce roman n'a jamais été publié en Italie. Il a été publié à Mexico en 1942 et qu'il n'y a jamais eu de traduction. Et qu'en cherchant de la correspondance, évidemment, toute la correspondance qui me semblait la plus importante, je cherchais de la correspondance qui avait été échangée dans l'entre-deux-guerres. Je tombe sur une lettre tout à fait par hasard, alors à New York, à Boston, pardon, dans le fond de la Donata dei Refrattari, sur une lettre que Touron y envoie à New York, à Raphaël Schiavini, et il lui dit « Giuseppe Garetto vient de publier un roman dans lequel il raconte notre effroyable traversée depuis le Maroc jusqu'au Mexique. » Donc c'est par le biais de cette lettre que je découvre cet ouvrage, qui était heureusement pour moi conservé à la BNF et qui éclaire toute une partie de sa trajectoire, de son départ de Marseille à son arrivée au Mexique.
C'est extraordinaire, ça.
Alors, après, j'ai tenté de recouper avec des documents. Sur l'Afrique du Nord, il n'y a pas de documents. Enfin, en tout cas, c'est pas... Je sais qu'il rejoignait un groupe de militants libertaires qui étaient implantés de longue date en Algérie, notamment Dino Angeli, Ida Marchettini, mais qui était allé s'installer en Algérie pour le travail, notamment avec l'entreprise Cimex qui a embauché beaucoup de militants libertaires italiens. Puis après, il y a aussi toute la littérature, le récit, toute la littérature de militants qui ont transité par Marseille, c'est énorme. Toutes les publications qui ont trait à la fin des années 30, lourque Marseille devient une souricière, que bon nombre de gens sont en transit et ne parviennent plus à quitter Marseille. Bon, je pense à Anna Segers, Transit, mais il y a beaucoup de publications. Je pense à Léo Valiani, qui est devenu député par la suite. Léo Valiani est un membre de Justice et Liberté qui s'embarque clandestinement avec Pio Touron à bord d'un vapeur à Marseille. Ils doivent rejoindre l'Afrique du Nord parce qu'ensuite, tous les 6 mois, il y a un départ depuis le Maroc vers le Mexique. Mais d'abord, ils doivent s'embarquer clandestinement au départ de Marseille parce que tous les bateaux sont contrôlés. Donc, il y a une première tentative qui échoue. Et d'ailleurs, la police des ports marseillaises relate « Tel jour, nous avons intercepté le... Bon, » je crois que c'était le Nador, d'ailleurs, en partance pour l'Algérie. « Telle et telle personne ont été arrêtées et renvoyées au Brébant marseillais, qui est un centre de criblage à partir duquel... on dispatche les militants et les êtres humains vers différents centres de rétention administrative. Alors des fois des camps assez officiels et parfois des camps beaucoup moins officiels. Donc c'est le cas de deux camps par lesquels est passé Touron, qui sont des camps d'internement très peu connus. Enfin, même Péchanski n'en parlait pas. Je pense qu'il y a eu parfois des camps de fortune qui ont été montés de toutes pièces à la va-vite. Bon, c'est déjà le cas d'Argelès, puisqu'il n'y a pas d'installation sanitaire, que les gens dorment sur le sable. Donc rapidement, Turoni, au travers des récits de Valiani, par exemple, je peux imaginer quelles ont été les conditions de traversée à bord de ce vapeur, puisque Valiani le raconte et qu'il fait la traversée avec Turoni.
Donc ça veut dire que c'était vraiment un personnage romanesque.
C'était un personnage romanesque, c'était un personnage aussi de réseau, même si je n'aime pas beaucoup cette expression, qui est arrivé en France, qui n'était pas un militant à proprement parler, il a 17 ans. Alors bien sûr, la légende dorée prétend, mais c'est peut-être vrai, qu'il a assisté à son premier meeting à l'âge de 14 ans, à son premier meeting de Malatesta. Alors effectivement, j'ai vérifié, Malatesta est venu à Cesena en 1918. Il est probable qu'il ait participé avec un de ses frères à ce meeting. Bon, après, pour autant, est-ce que ça fait de lui un militant ? Voilà. Il y a tout un tas de constructions mémorielles très chargées, effectivement, que je voulais déconstruire aussi. Donc, il arrive en France, il n'est pas politisé, pas plus politisé que ça, c'est pas un militant. Et puis toute la première partie de sa trajectoire est commandée, c'est-à-dire environ jusqu'en 1934, est commandée par la recherche d'un emploi. Donc on comprend aisément qu'il sillonne la France et une partie de l'Europe à la recherche de chantiers. Très très souvent, il a travaillé de manière officielle puisqu'il est déclaré. Et à partir de 1934, c'est en ça que je trouvais que l'opposition franche et nette entre l'immigration économique et l'immigration politique était un peu, pour moi, un peu trop...
C'est un peu artificiel.
Un peu artificiel, parce que forcément, un migrant politique est à un moment donné confronté à la question de l'emploi. D'autant plus difficile lorsqu'on n'a pas de papier et qu'on est clandestin. Donc, toute la première partie de sa trajectoire est commandée par la recherche d'un emploi. À partir de 1934... Mais peut-être qu'en y réfléchissant, à partir de 1932, mais je n'ai pas suffisamment d'éléments pour le dire, c'est le militantisme qui prend le dessus et du coup qui guide sa trajectoire. Parce que entre 1932 et 1935, il vit à Brest. Donc nous sommes rendus à Brest, aux archives. Il vit à Brest et navigue dans les parages de la... Enfin, ils appellent pas ça la Bourse du Travail, ils appellent ça la Maison du Peuple. Donc il y a des témoignages de militants, René Lochu notamment, qui est un militant brestois très connu, qui est mort dans les années 70, se rappelle très bien de Pio Turoni. Et autour de Pio Turoni, qui, alors pour le coup, cette fois-ci, avait fondé sa propre entreprise, puisque j'ai retrouvé son immatriculation au registre du commerce, et fait travailler vraisemblablement des militants. Mais je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas eu autre chose. Je ne m'explique pas pourquoi et Pio Turoni et Bernasconi, qui est le secrétaire de la Ligue des droits de l'homme italienne à Brest, se retrouvent là à ce moment-là. Pur hasard. Mais quoi qu'il en soit, son arrivée à Marseille en 1934, à la fin de l'année 34, est clairement dictée par ce qui commence à se passer en Espagne et surtout la perspective d'une révolution imminente. Rapidement, Marseille devient un peu la plaque tournante de la Rollemagne pour l'Espagne républicaine. Alors, surtout les communistes, bien sûr, mais les anarchistes également. Il y a eu un canal d'enrôlement au départ de Marseille, géré par des anarchistes, notamment Giulio Bacconi, qui est un autre militant qui est arrivé à Marseille dans les années 20 et qui a terminé sa vie à Marseille. Et il se trouve que Bacconi, Umberto Cecotti également, sont des militants qui ont également été partie prenante dans le comité d'assistance pour les victimes politiques.
Ah voilà, ça va être intéressant.
Alors là, ça va être intéressant parce qu'à la fois, on va se rendre compte que ce sont des personnes, que ce sont des êtres humains qui ont une vie très, très remplie. Il n'y a pas beaucoup de place pour la vie personnelle. Lors de sa permanence à Marseille, Turoni a un emploi déclaré chez un entrepreneur local. Il se déplace sur des chantiers. Alors là, je sais qu'il a par exemple travaillé à Sénat sur la caisse d'épargne, Il s'est déplacé dans les Alpes. De front, il gère ce comité d'assistance aux victimes politiques, donc qui comprend l'accueil des prisonniers, l'hébergement des prisonniers, trouver des solutions aussi pour repartir, trouver des canaux d'évasion. Tous les 10 jours, il se rend à Perpignan, parce qu'à Perpignan, il a un groupe d'anarchistes italiens qui sont implantés, qui sont chargés de récupérer le courrier dans les deux camps de Saint-Cyprien et d'Argelès, mais qui aussi sont chargés de récolter les desiderata des différents prisonniers. Alors, ce ne sont pas des camps de concentration comme on pourrait les imaginer, très fermés. Je pense qu'ils ont été assez ouverts et que les évasions étaient quand même assez facilitées parce que les civils pouvaient y pénétrer. Donc, ces deux militants qui sont sur Perpignan font circuler l'argent, font circuler les produits de première nécessité, font circuler la presse et surtout récupèrent le courrier. Ils organisent des évasions. Et c'est Turoni qui a... Et Turoni, Bacconi... Alors, ce comité d'assistance aux victimes politiques a quand même diffusé son petit fascicule, bon, qui est considéré comme un périodique, puisqu'il a, il a 15 numéros, dans 17 camps de concentration. Ça, je l'ai appris parce qu'en fait, il le dit dans un échange épistolaire avec la fille d'un militant qui est installé en Uruguay. Et il lui dit « Actuellement, nous sommes en mesure de diffuser notre bulletin. » Donc c'est le bulletin de la FAI, de la Fédération anarchiste italienne, qui circule dans 17 camps. Parce que, bon, on pense souvent à Argelès, Saint-Cyprien. Bon, mais après, il y a aussi Bram dans l'Aude. Il diffuse sur le camp du Vernet en Ariège. Puis d'autres camps, Sept-Fonds dans le Tarn, si je ne me trompe pas. Donc, il circule pas mal. Alors, j'ai trouvé quelques sources qui attestaient le passage régulier de ces militants dans les camps, sur Saint-Cyprien, sur Argelès et sur le Vernet d'Ariège. D'ailleurs, à Argelès, il y a un comité interne au camp d'Argelès, un comité d'assistance aux victimes politiques qui se crée à Argelès. Dans le camp, parce qu'en fait, 3 de ces militants ont été déjà à la tête de ce comité d'assistance aux victimes politiques dans les années 24-25 à Marseille. Donc, ils savent faire. Alors, avec peut-être beaucoup moins de latitude que sur Marseille. Donc, il y a tout un tas d'activités qui sont empilées. Donc, toute la partie officielle déclarée, donc sa vie professionnelle. Il travaille étroitement avec la CNT et la FAI aussi, puisque la CNT et la FAI avaient créé une fausse entreprise de... une fausse compagnie de transport qui était installée sur la Canebière, la CECI, la Compagnie d'Expansion Commerciale Internationale, et qui, je pense, a permis les transports entre Marseille et Perpignan, parce qu'ils faisaient de fréquents allers-retours. Donc, à la tête de cette entreprise, ce sont 2 membres de la FAI, ce sont des Portugais, donc, entre parenthèses, Inocento da Camara Pires, et plus tardivement, Germinal de Souza, qui sont venus faire le job dans cette fausse entreprise de transport. Donc, toutes ces années passées sur Paris, sur Marseille, au fur et à mesure, il a créé son petit réseau. Et y compris, mais en cela, il est un peu l'héritier de Camillo Berneri, pas seulement avec des militants anarchistes, puisqu'il est quand même très proche des giélistes. Camillo Berneri était quand même assez partisan de l'ouverture à d'autres formations. Alors, non communiste évidemment, mais à d'autres formations de l'antifascisme. Et donc lui, on voit qu'il a entretenu des relations avec les giélistes. Sur Marseille, il a côtoyé Émile Loussou et sa femme, qui, bon, après-guerre, fondera le parti Sardes d'Action. Il a côtoyé toutes les familles de l'exil politique, notamment Émile Loussou, qu'il a vraisemblablement mis en contact avec Varian Fry, qu'il a vraisemblablement mis en contact avec Gilberto Bosquels, le consul mexicain installé à Marseille.
Oui, qui lui délivre. Un rôle important.
Et qui a eu un rôle important dans l'expatriation des intellectuels antifascistes, mais surtout dans l'expatriation de quantité d'anciens brigadistes espagnols et d'anciens républicains espagnols qui, en possession d'un visa mexicain, ont pu sortir de Marseille. Alors, d'abord, le printemps 1938, les décrets-lois Daladier sur les étrangers commence à restreindre considérablement les libertés, notamment d'expression. Les associations doivent être dissoutes. On assiste à des vagues d'expulsion et des contrôles de plus en plus réguliers. Tous les militants anarchistes, tous les antifascistes ont à leur actif plusieurs condamnations pour infraction.
On fait une petite pause musicale.
Si avvicina la più giusta guerra, la guerra proletaria, guerra senza frontiere, innalzeremo al vento le libere bandiere, dai monti e dalle valli, giù noi scendiamo in fretta, con queste mani dai calli faremo vendetta, nel popolo gli arditi, noi siamo.
Voilà, donc vous venez d'écouter donc Fili dell'Ufficina, c'est une chanson de 1921 sur les ouvrières de l'industrie
de l'armement. Donc à partir de 1938, deux congrès se tiennent à Marseille. C'est ça qui est aussi fait de Marseille, au-delà du fait qu'elle est une plateforme d'enrôlement pour l'Espagne. Il y a deux congrès anarchistes qui se tiennent à Marseille. Il y en a un en décembre 1937. Donc à ce moment-là, tous les anarchistes italiens, surtout en France, je suppose, je ne crois pas que d'autres continents se soient rendus à Marseille, transitent vers Marseille pour ce congrès. Et celui de septembre 1938, qui, après les premiers effets du décret Daladier et surtout la montée en puissance du fascisme et en Espagne et en Italie, prennent la décision de passer dans la clandestinité. Et Turroni, Bacconi, Cecotti et quelques autres, parce que il a été très difficile d'identifier tous les militants qui ont fait fonctionner le comité. Et compte tenu de l'ampleur de l'activité, de la multiplicité de l'action dont ils ont fait montre, il est impossible qu'il n'y ait pas eu d'autres militants. Sauf que pour le moment, on a identifié une dizaine de militants, dont des Français, qui bien évidemment ont été obligés de déclarer, notamment pour louer les appartements, on ne pouvait pas déclarer...
Donc, des étrangers, c'était pas possible.
Des étrangers, ce n'était pas possible. Donc il y a à la fois des militants français et des militants italiens, mais à 7-8, je ne crois pas qu'ils aient pu faire fonctionner ce comité. Ils étaient vraisemblablement beaucoup plus nombreux. Alors au fur et à mesure, plus on approche de 40, mais les décrets d'expulsion, les emprisonnements, ceux qui n'ont pas pu rentrer d'Espagne, ceux qui ont été internés dans les camps. Donc il y a toute une organisation. Donc il y a à la fois des déplacements dans les Pyrénées-Orientales réguliers, il y a toute la logistique sur Marseille pour accueillir, et puis il y a aussi cette activité, malgré tout, ils tentent de poursuivre la diffusion de la propagande, puisqu'ils diffusent ce périodique qui est le bulletin de la Fédération anarchiste italienne dans la plupart des camps d'internement. Toujours faire la distinction entre internement et concentration, mais dans les faits... La finalité n'était pas la même, mais
oui, voilà, c'est
les
ça.
Conditions dans lesquelles c'était pas ils ont ça. Été...
Enfin, moi, j'étais quand même étonné du nombre de camps qui sont cités là, dans le sud de la France. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant que ça, qui recevaient en particulier, bien sûr, les républicains espagnols. Je ne savais pas qu'il y en avait autant
que ça. Les camps de républicains espagnols, mais je crois aussi que parfois, il y a eu des camps de fortune qui ont émergé et qui ont disparu aussitôt après. Là, je pensais notamment à deux des camps dans lesquels Turroni a séjourné, le camp de Rémoulin dans le Gard, et le camp de Villemagne, dans le Gard également.
On va donc poursuivre la trajectoire de Pio Turoni. Après Marseille, donc Marseille, c'est quand même le moment extrêmement important où il prend la tête de tout un réseau. Mais après, il quitte Marseille. Alors qu'est-ce qu'il va faire jusqu'à la fin de sa vie ?
Lors d'un banal contrôle de la correspondance, la police ouvre cette fameuse enveloppe où se trouve le compte rendu financier. Parce que les comptes rendus financiers, il y a quand même un grand souci de transparence. Les comptes rendus financiers et des journaux et des comités d'assistance pour les victimes politiques, tous les comptes rendus sont publiés régulièrement dans la presse anarchiste. Essentiellement la Donata dei Refrattari ou il Risveglio Anarchico. Et ce mandat est assorti de ce compte rendu. Branle-bas de combat, perquisition chez Pio Turoni au 44 quai du Port, qui est encore l'occasion, parce que tout ce qui a été perquisitionné chez Turoni est conservé dans un dossier qui est conservé dans l'Indre avec les archives de la gendarmerie, puisque il perquisitionne chez Pio Turoni parce qu'il est accusé d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. En relation toujours avec le fameux décret d'Aladier qui interdit les associations d'étrangers. Il est maintenu en prison pendant un mois et demi. Et puis finalement, au terme d'une enquête extrêmement poussée, puisqu'il y a quand même plus de 200 pages de PV et de rapports qui ont été conservés justement dans l'Indre, aux archives de la gendarmerie, sur cette fameuse... Et l'enquête a été très poussée et a remonté le fil de tous les employeurs et a essayé de remonter toute la trajectoire de Turoni depuis son entrée en France, qui m'a permis aussi, avec une source qui, pour le coup, est parfois très administrative, de combler des blancs et de faire des comparaisons avec les éléments que j'avais sur certains pans de sa trajectoire. Il est relâché pour non-lieu, mais rapidement, évidemment... Il est poursuivi pour infraction à arrêté d'expulsion, puisque tout de même, on ne le condamne pas à mort, mais on l'expulse de France. Et donc commence une longue odyssée qui sera jalonnée de prison, de camps d'internement, puisqu'il est successivement... Alors, traditionnellement, le Brébant marseillais, qui est une salle de spectacle au Chartreux et qui a servi de camp de criblage, où se sont succédés tout un tas de nationalités, de politiques. Et à partir du Brébant marseillais, dont visiblement on pouvait s'échapper facilement, les prisonniers sont dirigés vers différents camps. Donc ensuite, ils passent par le camp de Rémoulins, dans le Gard, puis par celui de Villemagne, duquel ils s'échappent. Il est repris, il est emprisonné. Alors la première fois, il avait été emprisonné au camp du Fort Saint-Jean. Ce qui explique que j'ai dû aller à Vincennes récupérer le registre d'écrou, puisque les archives y sont conservées. Et c'est ce registre d'écrou qui donne accès au dossier de procédure pénale dans l'Indre. Les autres fois, il est emprisonné à la prison Saint-Pierre, puis à la prison Chave. Et puis finalement, c'est le moment où un certain nombre d'intellectuels, mais je ne vais pas évoquer le sujet parce que tout le monde le connaît, un certain nombre d'intellectuels antifascistes sont exfiltrés par Varian Fry, par le biais notamment de Gilberto Bosquez qui délivre des visas pour le Mexique. Donc, un certain nombre de membres de Justice et Liberté, dont Léo Valiani, vont emprunter ce canal. Emilio Lussu, que Pio Turoni a dû rencontrer à Marseille dans les années 36-37, pense à Turoni parce qu'en fait, il le pense être le seul capable de pouvoir faire le lien avec les groupes libertaires installés en Afrique du Nord. Parce qu'entre le moment où ils vont partir pour le Mexique et le moment où ils vont arriver en Algérie, il va se passer 6 mois. Et durant ces 6 mois, Emilio Lussu et Varian Fry veulent s'assurer que ces 10 militants qui vont traverser clandestinement d'abord jusqu'au Maroc, puis ensuite jusqu'au Mexique, vont pouvoir trouver les ressources nécessaires. C'est une supposition, c'est une des hypothèses, mais il y a encore des choses qui... Je suppose que Pio Turoni gagne son passage pour l'Afrique du Nord, puis pour le Mexique, parce qu'il est chargé de gérer ces 10 militants antifascistes depuis leur arrivée à Alger jusqu'à leur départ pour le Mexique. Parce qu'il est implanté en Afrique du Nord, il y a des militants qui pourront lui permettre. Parce qu'ils arrivent d'abord en Algérie, puis il faut qu'ils marchent jusqu'à la frontière marocaine. Et pour ensuite prendre ce fameux Serpa Pinto, qui est un bateau affrété par la Croix-Rouge suisse, qui tous les 6 mois part et fait le tour d'un certain nombre de points et finit par arriver à Veracruz. Donc, la première fois, il essaie de s'embarquer clandestinement à bord d'un navire de marchandises. Il est repéré, il est renvoyé à la prison de Saint-Pierre. Et puis la deuxième fois, il s'embarque avec Léo Valiani. Donc Léo Valiani, qui est un personnage qui est assez connu en Italie, puisqu'il occupera les fonctions de ministre, va dans son récit parler de cette traversée, ce qui me permet aussi d'éclairer la trajectoire de Pio, puisque je n'avais pas d'informations sur cette... Il s'embarque pour le Serpa, pour le Mexique, et débarque à Veracruz en décembre 1941. On perd la trace de Pio Turonian. On sait seulement qu'il se retrouve en mars 1943 en Sicile. Et là...
Point d'interrogation.
Alors, bon, il y a des... Enfin, parce qu'en fait, il a fait l'objet de, d'une nécrologie, évidemment. Le mouvement a écrit une nécrologie lors de son décès. Et puis, il y a un certain nombre de publications qui l'auraient auréolé de toutes... Alors, il aurait été un des plus jeunes militants à assister à la conférence de Malatesta. Il aurait été très proche de Nestor Makhno. Il aurait été le bras droit de Camillo Berneri. Alors, à la fois, il y a plein d'événements un peu qui sont... on lui prête des missions qui n'ont pas du tout été les siennes. Et puis, il y a certains passages qui sont peu ou pas connus. D'abord, parce que je pense qu'il n'est jamais revenu sur cette partie de sa trajectoire. Il faut quand même savoir qu'entre 1937, lorsqu'il rentre d'Espagne, et 1938, il met sur pied 3 tentatives, qui ont échoué, bien sûr, sinon ça se saurait, 3 tentatives d'assassinat contre Mussolini.
Ah oui, quand même.
Voilà, donc... On en a retrouvé trace dans la fameuse série Acadue. Alors, elles sont avérées avec plus ou moins de détails, mais donc c'était le projet lorsqu'il rentre d'Espagne. De ça, il n'en parlera jamais non plus. Essentiellement, d'abord parce qu'il est sous le secret, parce qu'il est quand même très, très dans beaucoup dans l'illégalité. Donc, il arrive au Mexique... Et puis, tout à fait par hasard et assez très tardivement dans le processus de rédaction de ma thèse, je suis tombée fortuitement sur une source totalement inattendue, c'est-à-dire que le nom de Pio Turoni est apparu dans l'inventaire des archives du SOE, le service le spécial exécutif, les archives du service secret anglais. En toute hâte, je ne pouvais décemment pas ignorer l'information. En même temps, son nom apparaissait dans un inventaire. Je ne savais pas ce qu'il y avait au bout. Je découvre donc là, assez tardivement, qu'il a... Alors, je le comprends comme ça, mais encore une fois, est-ce que c'est aussi un peu d'empathie avec mon personnage? Ça m'est souvent arrivé. Je comprends qu'il accepte de rentrer dans les services secrets anglais. Parce que les Anglais ont besoin de militants qui connaissent les régions dans lesquelles ils vont débarquer. Et puis surtout, parce qu'en Espagne, par le biais de Léo Valiani, mais surtout par le biais de Max Salvadori, les Anglais recrutent des militants qui vont pouvoir être des points d'appui sur les zones de débarquement. Et je crois très sincèrement que depuis le Mexique, il marche à pied quand même jusqu'au Belize. Il embarque au Honduras, dans un petit vapeur qui le conduit en Angleterre. Et ensuite, je sais qu'ils se sont rendus dans une base d'entraînement en Afrique du Nord. Et c'est comme ça qu'on le retrouve en 1943 en Sicile. Où, là encore, il travaille dans une banque. Et je crois que c'est une couverture parce que, en fait, mais les services secrets anglais, je pense, ne se leurraient pas. les services secrets anglais et Pio Turoni ne poursuivaient pas le même objectif. Pio Turoni a commencé progressivement à sillonner, en partant du sud, toutes les provinces pour essayer de reconstituer et de faire un peu l'état des lieux du mouvement qui avait été extrêmement dispersé. Certains militants sont restés en France, d'autres n'ont pas survécu à la guerre d'Espagne, d'autres étaient encore dans les camps. Et puis beaucoup de militants qui sont rentrés après-guerre, à la déclaration de guerre, ont été internés, ont été exilés aux confines, sur des îles plus qu'inhospitalières, hein, Ponza et j'en pense, et surtout qui ont terminé aussi, il y a eu des camps de concentration en Italie. Donc, les commissions de contrôle qui sillonnent les camps pour savoir qui veut rentrer en Italie, oui. Qui veut rentrer en Italie, être interné, être emprisonné. Donc voilà, c'était ça la finalité. Il entreprend, et puis je crois que de toute manière, il est libéré de son engagement en 1945. Il entreprend de sillonner le territoire italien. Et je crois qu'il ne rentre... Il rentre à Cesena définitivement qu'en 1950, après être parti en 1924. Donc il est resté 30 ans dehors. Et après, à partir de Cesena, avec ce qu'il reste de militant, il repart sur une autre aventure que je n'ai pas poursuivie, évidemment. Sinon, ce serait une biographie.
Ben voilà, ce sera peut-être d'autres fois. On est arrivé donc au terme de ce numéro de Mare Nostrum, qui était consacré à Pio Turino et le mouvement anarchiste italien en exil en France dans l'entre-deux-guerres. Nous étions en compagnie de Françoise Fontanelli. Pour terminer, on va écouter une chanson qui s'appelle Canto a Caserio, dont les paroles ont été écrites par Pietro Gori, qui est donc un écrivain, un journaliste, poète, penseur et activiste du mouvement anarchiste, mais aussi avocat, qui a défendu Caserio, donc il a écrit cette chanson en souvenir de ce client. Caserio, c'est l'organisateur de l'attentat contre Sadi Carnot. Chers auditeurs, chères auditrices, au revoir et au prochain numéro.
Questa mia canzon che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfida la morte. A te Caserio, ardea nella pupilla delle vendette umane, la scintilla e dalla plebe che lavora e geme, donasti ogni tuo affetto, ogni tuo aspetto. Yeah.
tremare.